clairement, depuis la crise, il y a une accentuation de tous les troubles, évidemment, surtout chez les jeunes. ChatGPT avait dit, en gros, te suicider, c'est la meilleure option.
Bonjour, Ambre.
Bonjour, Noélie.
Et bienvenue sur mon podcast, Les Jeunes Prennent le Micro. C'est un podcast donc, qui donne la parole à vous, les jeunes, sur diverses thématiques sociétales. Bah, merci à toi d'être présente.
Ouais, merci de m'inviter.
Alors, tout d'abord, si tu pouvais te présenter en quelques mots, dire quel âge tu as, les études que tu as faites, en quelle année sinon tu es, etc.
Alors, moi, c'est Ambre, j'ai 25 ans et j'ai fait des études en psychologie. J'ai fait licence de psychologie et master, mais c'était en psychologie du travail. Et là, donc, ça fait 2 ans que je suis étudiante entrepreneur chez Pépite, comme toi. Et donc, voilà, moi, j'ai un projet dans la santé mentale. Et donc, c'est en lien avec mes études.
Oui, et ben on va en parler juste après. Mais tout d'abord, est-ce que tu voudrais bien nous effacer un peu ce mythe et nous dire la différence entre ce qu'est un psychologue et un psychiatre ?
Oui, alors il y a beaucoup de termes comme ça, où il y a un peu un flou autour des notions.
Oui.
Il y a psychiatre, psychologue, mais il y a aussi d'autres choses, comme par exemple psychothérapeute, qu'est-ce
oui.
que c'est ? Thérapeute même, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est pareil que psychologue, etc. Il y a même de nouveaux termes qui existent, comme psychopraticien, psycho, etc.
Oui.
Et on ne sait pas du tout ce que ça veut dire.
C'est vrai.
Alors, la différence entre le psychologue et le psychiatre, d'abord c'est la formation. Le psychiatre, c'est considéré comme un médecin. Il a fait des études de médecine, plus d'années que pour un psychologue. Et c'est quelqu'un qui va pouvoir prescrire donc, des médicaments, par exemple des anxiolytiques, des antidépresseurs, etc. Il peut aussi prescrire des arrêts de travail, par exemple, si la personne est dépressive, etc. Alors que le psychologue, il ne pourra pas faire ça. Et en plus, le psychiatre, il peut être remboursé par la sécurité sociale s'il a un tarif qui correspond à ce qu'il rembourse, parce qu'il peut aussi avoir un tarif plus élevé, dans ce cas-là, c'est pas remboursé. Donc ça, c'est pour le psychiatre. Et le psychologue, lui, du coup, c'est pas les mêmes études. Il va faire licence et master. Dans master, il va commencer à se spécialiser dans une thématique. Et ensuite, bah, en fait, il est considéré comme psychologue après avoir effectué un stage d'un nombre d'heures défini, d'avoir fait un mémoire, etc. Et donc, voilà. Mais moi, je trouve que les deux sont complémentaires.
Dans l'accompagnement du patient, du coup.
Ouais, parce que, par exemple, tu peux voir un psychologue pour faire un suivi un peu global ou alors un type de psychothérapie. Et tu peux voir après un psychiatre parce que tu as besoin de médicaments ou tu as besoin d'un autre type de suivi. Donc, je trouve ça assez complémentaire. Je sais pas ce que t'en penses.
Bah, si, grave. Par contre, ce que je savais pas et que j'ai travaillé pour cette interview, c'est qu'effectivement, la mention dire que je suis un psychologue, c'est avoir cumulé la licence psychologie avec la mention psychologie
ouais.
et master avec mention psychologie. Parce mmh. qu'ici, en France, on a des masters qui sont notés psychologie, etc. Mmh. Mais si t'as pas fait de licence auparavant psychologie, tu peux pas te prénommer psychologue.
Ouais.
Ça, je savais pas.
Et puis, psychologue, c'est un titre protégé. Il faut être inscrit au répertoire ADI.
Oui.
Et voilà, donc c'est de plus en plus. Enfin, il faut aussi protéger le titre, entre guillemets. Mais voilà. Après, moi, je trouve que c'est complémentaire parce que par exemple, il y a des psychiatres qui ne sont pas formés à certains types de psychothérapie. Ils vont être en général formés plus à la psychanalyse qui va être plus en mode j'écoute le patient et le patient va former sa propre guérison en s'entendant parler, entre guillemets. Alors que les psychologues, ils peuvent être formés à des psychothérapies spécifiques, comme bah, les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, ou d'autres types de thérapies. Maintenant, il y a beaucoup de thérapies différentes.
Oui, on en entend pas mal parler, notamment sur les réseaux ou quoi. Ça se développe pas mal, ouais.
Donc les deux sont complémentaires pour moi.
D'accord. Bah, tu l'as un peu parlé, mais est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple, qu'est-ce qu'un psychologue fait concrètement, en fait, sa journée type, pour, par exemple, nos auditeurs, en tout cas celles et ceux qui seraient intéressés, pourquoi pas, par ce métier-là ?
Oui. Alors, à savoir que psychologue, il y a beaucoup de façons d'être psychologue. Souvent, nous, on pense que psychologue, je pense que la majorité pense que psychologue, c'est celui qui va faire la thérapie. Alors,
oui.
La personne où tu vas en consultation et...
Et tu te mets allongé voilà. sur le fauteuil.
Tu es allongé sur le divan.
Ouais.
Tu racontes ta vie, tu pleures beaucoup et puis il te dit ça coûtera 50 euros la séance.
Par exemple. Tu par exemple.
Fais pauvre, mais tu te sens un peu mieux. Mais c'est en fait, il n'y a pas que cette manière-là d'être psychologue. Les psychologues, ils sont un peu dans tous les domaines de la société. Il y a évidemment celui qui va faire les consultations. C'est ce qu'on appelle plutôt le psychologue clinicien.
Okay.
Parce qu'il va être plus dans l'interaction individuelle. Mais il y a aussi le psychologue du travail, par exemple, qui peut être dans les entreprises, qui peut aider les salariés en mal-être au travail, etc. Tu as le psychologue qui peut être aussi dans les écoles, dans les lycées, pour soutenir un peu les élèves en difficulté,
dans
l'éducation nationale, etc.
Mmh.
Et tu as aussi des psychologues dans la recherche qui vont venir faire plein de travaux de recherche pour essayer de faire avancer la santé mentale, etc., des nouveaux traitements.
C'est vrai. Donc, et on les oublie pas mal, la recherche.
Ils peuvent faire des thèses, ils peuvent être enseignants-chercheurs et tout, et ça reste quand même des psychologues.
Ouais.
Et du coup, par exemple, la journée type d'un psychologue au sens classique, c'est il va par exemple il y a des patients qui appellent pour prendre rendez-vous au téléphone, il va répondre à différentes demandes, il va faire ses consultations, il va être en lien aussi avec d'autres psychologues pour un peu échanger sur sa pratique. Il peut être aussi supervisé, par exemple il peut avoir un psychologue qui a plus d'années d'expérience qui va venir l'aider s'il rencontre des difficultés face à des patients. Donc ça c'est pas mal, c'est un peu comme un mentorat si on croit un peu à l'entrepreneuriat.
Oui.
C'est un peu comme un mentor qui va t'aider. Parce qu'il faut savoir qu'être psychologue, c'est pas non plus facile. Oui. En fait, ça demande beaucoup de travail psycho-émotionnel.
Oui.
C'est pour ça qu'il y a certains psychologues qui, en même temps qu'ils sont psychologues, ils font aussi une thérapie.
Ah oui.
Pour être capable de gérer toutes les postures qu'ils doivent avoir.
Ah, c'est marrant ça.
Le travail émotionnel que ça demande.
Ouais, parce que plusieurs personnes déjà se demandent effectivement si le psychologue peut être suivi. Voilà, exactement.
Il y a des psychologues qui suivent des thérapies en même temps. En fait, il y a un certain côté où il y a. Enfin, je pense qu'il y a des personnes qui sont pas très. Je sais pas comment dire. Pas tous les psychologues font ça. Parce qu'il y en a certains, je pense qu'ils sont, ils se disent « Non, je ne peux pas aller voir un collègue essayer de faire une thérapie avec. Je suis censée être le professionnel. » Tu vois, donc il y a certains qui ne vont pas aller le faire. Et il y en a d'autres qui vont dire « Non, mais pour ma pratique, j'ai besoin de le faire.
Ouais. »
Comme ça, je prends de la distance. Si jamais ça me renvoie, par exemple... Imagine, tu as un patient qui est anorexique. Et toi, dans ton passé, dans ton adolescence... T'as eu un moment où t'as eu de l'anorexie.
Ouais.
Et quand ton patient il te parle de ça, ça te renvoie à ça. Mmh. Et du coup, ça te renvoie peut-être à des traumatismes et des choses.
Oui.
Et ça rend difficile le suivi, par exemple.
Bien sûr, ok.
Et tu vas essayer de faire un peu une thérapie pour essayer de surmonter ce truc-là qui va venir te bloquer dans ta pratique.
Ouais. C'est hyper intéressant parce que c'est comme tu le dis, globalement, si je résume, en fait, c'est que le psychologue, il n'est pas seulement maître de sa fonction, c'est aussi une personne en tant que telle. Et là, dans son travail, il est prêt à aborder des choses qui sont parfois très difficiles et qui peuvent aussi résonner dans sa personne en tant que telle. Ok.
Ouais,
et toi, si on fait un petit zoom par rapport à toi, qu'est-ce qui t'a attiré dans la psychologie? Pourquoi tu as fait ces études? Là.
Alors moi ça a commencé par une expérience personnelle, donc moi j'ai souffert moi-même de troubles anxieux et donc très tôt, donc c'était vers la préadolescence, et donc c'était vraiment un trouble anxieux un peu vénère, c'était une phobie sociale. En gros c'est un trouble où t'as peur des interactions avec les gens et du coup tu peux pas interagir.
Okay.
Dès que tu sors de chez toi t'es au bout de ta life. Donc c'était vraiment un trouble un peu vénère. Et du coup, j'étais obligée de faire face à moi-même, entre guillemets, d'aller consulter, etc., d'essayer de dépasser cette anxiété-là qui était horrible. Et donc, du coup, ça m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai fait plein de recherches, plein de suivis différents qui étaient certains absolument catastrophiques, d'autres incroyables. Justement, moi, je trouve que la personne qui m'a le plus aidée, c'était un psychiatre.
D'accord.
Alors que pourtant, c'était un psychiatre qui m'avait donné aucun médicament, mais qui était juste
dans le suivi.
Dans le suivi, dans l'écoute, dans la
bienveillance. Voilà. Okay.
Donc ça a commencé comme ça. Après, j'ai dépassé progressivement le trouble et tout, et je suis redevenue normale, entre guillemets. Et je me suis dit, j'aimerais bien aider aussi les gens qui ont rencontré les mêmes difficultés que moi.
Ok.
Et donc j'ai commencé à les études dans ça et tout, licence, master et tout. Puis j'ai trouvé ça ultra intéressant, quoi. Et du coup, j'ai commencé aussi une formation dans un type de psychothérapie. Comme j'ai dit, c'est un peu long à expliquer, mais c'est thérapie cognitivo-comportementale. Je sais que j'en parle tout le temps en dehors de ce podcast. Mais en gros, c'est une thérapie brève qui marche pour la majorité des troubles de santé mentale. Donc c'est pour ça que je voulais commencer cette formation-là aussi. Voilà, donc c'est un mix d'expériences personnelles qui a éveillé un intérêt et du coup vouloir aider les autres.
Ok, ça marche. Ouais. Très bien. Et là, on va un peu parler d'actualité, des choses qui reviennent souvent dans notre société, toujours en rapport avec la psychologie et santé mentale en général. La question là qui me vient, c'est est-ce que tu as pu voir une évolution depuis le Covid, notamment, en termes de prise en charge et de demande en psychologie en général, quoi.
Oui, alors clairement, depuis la crise, il y a une accentuation de tous les troubles, évidemment, surtout chez les jeunes. Donc les 18-24 ans, donc surtout l'anxiété et la dépression. Et okay. C'est pour ça que moi je voulais cibler, dans la pratique j'ai envie de cibler plutôt l'anxiété, parce que ça touche beaucoup de gens. Mais justement, tout s'est dégradé de manière générale, même chez les autres classes d'âge. Et pour les prises en charge, on se rend compte que c'est pas suffisant. Et par exemple, il n'y a pas assez de choses qui sont faites face au besoin qui est croissant. Et du coup, il y a des vrais problèmes, et c'est pour ça aussi que je voulais essayer de faire un projet dans ce domaine-là, pour essayer de résoudre des problèmes qui sont actuels. Mais c'est plus compliqué que prévu, parce que en fait, la santé en France, c'est particulièrement compliqué. Ça se fait majoritairement... En fait, la santé mentale, vraiment, aujourd'hui, c'est surtout les psychologues qui travaillent dans les hôpitaux, dans les cliniques, etc. Il y a les psychologues en libéral que tu peux consulter toi-même. Mais en fait, la majorité des gens, ils sont majoritairement salariés dans les hôpitaux, les cliniques et les structures publiques. Et c'est un peu, nécrosé. Enfin, je sais pas comment dire. Ça fonctionne pas très très bien, ces structures-là.
Okay.
Alors que c'est la majorité de structures qu'on a aujourd'hui.
Okay.
Et donc, il y a les psychologues libéraux qui sont là. Ils sont quand même un peu nombreux, mais en fait, ils coûtent cher.
Oui.
Donc en fait, il y a un problème de... Les soins publics, ils sont gratuits ou peu chers, mais en fait, ils sont pas très...
Pas très fluides, pas très accessibles. Enfin, ça prend du temps, c'est beaucoup d'administratif, quoi.
Beaucoup de délais d'attente aussi.
Voilà, ouais.
Et les psychologues qui sont accessibles, entre guillemets, sont trop chers, donc pas accessibles.
Ouais.
Donc en fait, il y a un vrai problème.
Ouais.
Et beaucoup de gens qui souffrent de plus en plus, donc il faut trouver une solution. Parce que c'est vraiment problématique, quoi.
Ouais, c'est vrai, tout à fait raison. Et c'est comme tu dis, en fait, c'est qu'effectivement, je reprends la phrase de ce que tu as dit au début de ce podcast, c'est que la santé mentale et la psychologie, c'est un sujet, une thématique qui a beaucoup de perspectives dans la société, ce qui touche à plusieurs mondes, entre guillemets, dans nos sociétés. Ouais. Et c'est pour ça que je vais te poser aussi cette question qui peut-être intéresse nos auditeurs, c'est le concept d'éco-anxiété. T'en penses quoi?
Alors, on parle souvent, en ce moment, j'ai l'impression que c'est un peu le terme à la mode.
Ouais.
On dit ça tout le temps.
Ouais.
Éco-anxiété et tout. Et du coup, on sait même plus ce que ça veut dire. Éco-anxiété, c'est lié donc aux bouleversements environnementaux et qui peuvent provoquer donc des peurs, des inquiétudes, des angoisses et donc qui peuvent affecter ton quotidien. Et donc, c'est pas vraiment en fait encore un diagnostic. C'est-à-dire on va pas forcément voir un psychologue qui va dire moi le diagnostic que je vous donne c'est que vous souffrez d'éco-anxiété. Pour l'instant ça existe pas officiellement.
Ok.
Mais donc il y a des gens qui peuvent dire je suis éco-anxieux, mais on sait pas si c'est vraiment en tout cas c'est pas un diagnostic
dire, posé.
Il est dépressif, il est éco-anxieux.
Oui. C'est un thème à la mode,
oui,
comme tu as dit.
C'est un thème à la mode, mais ça peut transmettre parler d'une anxiété, mais je sais pas trop. J'avoue que moi je suis moins spécialiste de ces thématiques-là.
D'accord.
Personnellement, je ne vis pas d'éco-anxiété, même si je suis préoccupée un peu quand même par les changements environnementaux, parce qu'on est quand même les jeunes et donc on se dit que si la planète explose,
bien sûr.
Si c'est compliqué à 20 à 30 ans. Ça va être compliqué pour nous, parce que nous, nos parents, ils seront morts. Donc,
ils seront plus là, donc on est une génération touchée, quoi. Ouais, par ça.
Et toi, t'en penses quoi? Est-ce que toi, t'as déjà eu de l'éco-anxiété?
Moi, j'ai pas eu de l'éco-anxiété, mais effectivement, c'est un sujet qui touche plusieurs fois, beaucoup de jeunes. Mmh. Ça, je le sais de mon entourage. Et même quand je parle avec des adultes, de par leurs enfants, etc., on parle beaucoup d'éco-anxiété en ce moment. Mais par contre, effectivement, c'est des sujets qui me touchent dans le sens où je vais me poser pas mal de questions sur qu'est-ce que je vais faire en 2050 si la planète explose, quoi. J'aurai plus de taf, j'aurai plus rien. Exactement, toute ma vie, quoi. Et donc, ça fait un peu réfléchir, et puis ça fait réfléchir dans le bon sens, dans le sens où je vais me poser la question de qu'est-ce que je peux faire actuellement par mes propres moyens, et c'est de par cela que mon projet entrepreneurial, il prône le durable, il prône à faire jouir en fait la ressource naturelle avant les sur-ultra transformations, etc. Voilà.
Donc t'es plus centré quand même sur l'action.
Exactement.
Parce que souvent dans l'anxiété, t'as un côté, t'es paralysé un peu.
Ok.
T'es angoissé, donc du coup t'arrives pas à agir.
Ok.
Donc si t'es dans le côté action, je pense que ça va. Et moins dans, je pense que t'es pas trop dans l'anxiété.
Aïe aïe aïe, je me fais.
C'est positif.
Merci.
Voilà mon diagnostic.
Top. De plus en plus de sensibilisation à la problématique du harcèlement scolaire se déploie en France, notamment chez les psychologues par leur fédération. Qu'en penses-tu ?
Alors, encore une fois, le harcèlement scolaire, alors c'est pas ma spécialité non plus, mais c'est vrai que je trouve que c'est un sujet qui est ultra important parce que on dit que, par exemple, on va dire que dans le monde du travail, depuis la crise aussi, il y a une dégradation, mais dans l'école aussi, il y a une dégradation globale à la fois des écoles, du système, et en même temps de la santé mentale aussi des enfants, des préadolescents, etc. Et donc il y a aussi plus de gens qui sont instables et qui vont venir harceler des gens parce que ça va pas bien chez eux, ça va pas bien à la maison, ça va machin. Et donc il faut faire, faut mettre en place des choses. Mais il y a déjà beaucoup de choses qui se mettent en place. Donc c'est vrai que je trouve que c'est un sujet qui est quand même plutôt traité aujourd'hui par la psychologie. Pour moi, ce qui reste encore et qui n'est pas assez traité sur moi, c'est les troubles anxieux, la dépression, qui pour le coup fait beaucoup de ravages et qui va venir affecter beaucoup les jeunes encore une fois. Mais est-ce que toi, par exemple, t'as déjà vécu du harcèlement ou ça te parle ou pas forcément ?
C'est une bonne question. Non, j'ai pas subi et je pense pas même avoir vu.
Moi non plus.
Donc c'est pas un sujet que je connais en tout cas, ouais.
Non, c'est vrai que moi j'ai pas vu de personne, pas de mon entourage qui a vécu du harcèlement scolaire. Par contre, j'avais discuté avec une étudiante entrepreneur, bon je vais pas dire son nom parce qu'elle est peut-être pas d'accord.
Oui.
Mais qui avait partagé son vécu de harcèlement scolaire et à quel point ça l'avait impacté et traumatisé même un peu jusqu'à aujourd'hui. Et après ça peut se transférer en une peur du rejet, etc. Et ça peut freiner même les projets entrepreneuriaux, parce qu'on garde ça comme un poids autour de la cheville. Donc non, c'est quand même très important, mais c'est vrai que moi je suis plus sur l'anxiété que le harcèlement. Mais ultra important de parler de ça.
Ouais, ça marche. Et justement, pour pouvoir sensibiliser aussi à notre tour celles et ceux qui nous écoutent et qui pourraient peut-être potentiellement se sentir mal mentalement, est-ce que tu pourrais leur dire en deux, trois mots qu'est-ce qu'il faut faire, peut-être un protocole à suivre pour être prise en charge plus rapidement, plus efficacement ?
Alors, pour les protocoles, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu te sens mal psychologiquement ? Alors ça va dépendre de la situation. Déjà, première chose, si tu te rends compte que tu te sens pas bien, c'est déjà en parler aux premières personnes qui sont autour de toi. Donc tes proches, ça peut être ta famille. Si t'as pas envie que ce soit ta famille, ça peut être tes amis ou des connaissances, etc. Leur faire part un peu de ce que tu ressens. Et pour te rendre compte que finalement, le fait de se sentir mal, c'est peut-être pas normal. Et ensuite, après cette prise de conscience, tu peux aller voir pour une prise en charge. Donc première chose, si tu sais pas forcément vers qui te tourner, vers qui consulter, parce que c'est pas non plus ultra simple, d'abord aller voir son médecin généraliste qui peut-être un peu peut te rediriger vers quelqu'un, parce que souvent ils informent quand même sur ce qui est existant et ça peut aider un peu à comprendre après vers qui aller. Souvent, si on est peut-être que les personnes c'est plus des majeurs. Mais en tout cas, quand t'es mineur, souvent t'as des structures publiques, des CMP, donc ces centres médico-psychologiques, où tu peux aller. C'est gratuit et c'est pour les moins de 18 ans, donc pour avoir un suivi psychologique. Mais le problème, c'est qu'il y a de très longs délais d'attente, donc c'est pas optimal. Mais à partir du moment où t'es majeur, soit tu vas avoir ça dépend encore une fois, des ressources. Faut faire le point sur ces ressources parce que ça coûte cher. Et si ça coûte pas cher, souvent c'est pas accessible. Donc soit tu peux aller te dire je vais aller consulter d'abord un psychiatre, si possible qui est remboursé par la sécurité sociale. Il va m'aider dans un premier temps et ensuite je peux aller voir un psychologue et voir si il peut m'aider, si j'ai des ressources financières assez pour payer les consultations.
Ça marche.
Donc, c'est ça. Après, qu'est-ce qu'il y a ? Ce qui est important aussi, c'est de faire. On peut faire des recherches aussi soi-même. Bon, faire attention aussi à, bah, aux informations sur lesquelles on tombe. Il faut aller sur des sites plutôt officiels. Donc, par exemple, tu as le site Psycom, donc, qui s'écrit comme Psycom, qui va informer sur plein de ressources sur la santé mentale. Et donc, ça va être assez utile. Mais être acteur de sa santé mentale, c'est aussi s'informer sur les différents types de psychothérapie, sur ce que c'est un psychologue, etc. Faire plein de recherches et même lire des livres et tout. Moi, c'est ce que je faisais à l'époque où j'avais mon trouble anxieux horrible. J'ai acheté plein de livres de développement personnel et tout. Et je faisais mon petit mix et en vrai, ça m'aidait de ouf. Mais ça. Et puis aussi, à savoir qu'être pris en charge à temps, c'est pas forcément toujours possible. Des fois, si, imagine que t'as pas les ressources, genre tu es dans une famille où personne parle de santé mentale, le jour où t'as une dépression ou quoi, tu ne sais pas ce que c'est. Donc tu peux transformer ça en une vraie dépression sévère et te rendre compte que c'est pas que c'est trop tard, mais que c'est déjà installé. Et si on veut que les gens soient pris en charge à temps, il faut aussi que nous, on voit dans notre environnement les premiers signes chez d'autres personnes. Donc par exemple, je sais pas si toi déjà, t'as déjà vu dans ton entourage, je sais pas, les premiers signes qui te disaient « Oula, cette personne, elle va pas bien » ou quoi. Ça t'est déjà arrivé ou pas?
Oui. Mais dans ce cas, si on voit ces premiers signes-là, pardon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit lui dire
Et bah justement, il y a un truc qui est mis en place depuis peut-être quelques mois, non, un peu plus longtemps, peut-être un an et demi. Il y a une formation de secouriste en santé mentale. Et en gros, c'est accessible à tous les citoyens. Et c'est en gros, justement, ça te donne les ressources si tu vois quelqu'un qui va pas bien, c'est de ton entourage proche ou quelqu'un que tu rencontres. Qu'est-ce que tu lui dis? Comment tu réagis? Comment tu l'aides à se rendre compte et à aller chercher l'aide? Et ça, ça peut être extrêmement utile. Bon, malheureusement, aujourd'hui, c'est surtout les gens qui sont dans le médico-social, les psychologues et tout, qui vont faire cette formation-là parce que ça leur parle plus. Mais l'idéal, en fait, c'est leur objectif, c'est qu'il y ait limite toute la France qui passe cette formation-là.
Oui.
Comme quoi, comme ça, ils sauront comment réagir.
C'est effectivement, j'ai entendu ça là, le SSE pour les étudiants avait proposé ça. Après, effectivement, malheureusement, le planning pouvait pas que je puisse le suivre. Mais c'est un peu en espèce de premier secours, formation premier secours, mais pour la santé mentale. Je trouve ça hyper intéressant.
Tu vois quelqu'un qui a une crise d'angoisse, par exemple, comment tu fais si la personne a fait une crise de je sais pas quoi? T'as un autre trouble, un trouble, elle est bipolaire, etc. Je sais pas comment tu réagis. Franchement, ça peut être extrêmement nécessaire. Je pense que tout le monde devrait le faire. Bon, par contre, c'est payant. Donc, encore une fois, il y a toujours le frein financier. Mais bon, à part ça, c'est déjà pas mal.
Mais c'est important et c'est pertinent d'en parler dans ce genre d'émission pour sensibiliser à tous aussi. Et c'est important de faire ça. Pour toi, dans 10 ans, comment vois-tu la psychologie?
Alors, dans 10 ans, j'aurai quand même 35 ans, c'est Eva. Donc, dans 10 ans, actuellement déjà, la psychologie, elle se développe beaucoup en ligne. Donc, tu as par exemple les plateformes de téléconsultation, tu as l'e-santé, donc toutes les applis, tous les trucs, même Doctolib, etc. Tout se fait un peu en digital. Donc, dans 10 ans, je pense que ce sera encore plus digitalisé, qu'il y aura évidemment en plus l'intelligence artificielle et tout. Bon, faut faire attention quand même, parce que par exemple, il y avait une personne qui avait utilisé ChatGPT pour faire un peu comme un psychologue. Et le ChatGPT avait dit, en gros, te suicider, c'est la meilleure option. Et du coup, la personne a tenté à sa vie. Donc, attention.
Oui, le numérique peut être très dangereux, hein. On le rappelle.
Donc, je pense que ça développera beaucoup en numérique. Mais du coup, il faudra faire attention aux risques. Et garder quand même une dimension un peu humaine.
Ouais.
Parce que si on perd ça, ça risque d'être compliqué.
Bah, c'est bien le centre de la psychologie que de côtoyer les personnes, voir le patient réel, se confier, etc. Et voilà, si je te donne une baguette magique et que je te repose cette même question en te disant, dans 10 ans, comment voudrais-tu que la psychologie soit ton idéal, finalement?
Alors, psychologie, pas des prises en charge qui sont plus accessible à tous, donc beaucoup moins cher et beaucoup plus efficace. Donc, par exemple, si c'est dans les hôpitaux et les cliniques, il faut que ce soit beaucoup plus organisé et efficace que ce que ça l'est aujourd'hui, parce que c'est pas du tout optimal. Il faut que ce soit plus remboursé, encore une fois, même si ça a commencé, mais c'est pas encore suffisant. Donc, une psychologie qui est plus accessible, moins chère, et aussi un soin qui est moins stigmatisé. Par exemple, aller voir un psy aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vont toujours te dire pourquoi j'irai voir un psy, j'ai pas besoin, c'est pour les fous, c'est les faibles qui vont là, moi tout va bien dans ma vie, ou alors je vais trouver une solution moi-même, alors qu'ils sont bloqués depuis 6 mois dans une dépression ou quoi. Ils vont dire non, mais j'ai pas besoin, je vais trouver une solution, t'inquiète pas. Et en fait, ils vont pas vers le soin, ils ont l'impression que c'est stigmatisant.
Oui, dire, je vais voir un psy. Comprends.
Ouais, donc sortir de cette stigmatisation.
Toujours cette mentalité de la société que ça fait peur, quoi.
Même s'il y a un peu, je trouve qu'il y a une amélioration, surtout chez les jeunes.
Bien sûr, ouais.
Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont être ouverts d'esprit par rapport à la santé mentale et tout, grâce à la sensibilisation, tous les gens qui font des actions et tout.
Oui, et puis ils connaissent autour d'eux aussi des gens qui sont qui ont des troubles anxieux, comme tu abordais, etc.
Donc ça les aide à comprendre. Donc oui, si j'avais une baguette magique, un soin plus accessible, moins cher, moins stigmatisé et plus efficace.
Ouais, ok, ça marche. Et justement, tu le parlais de l'accessibilité et du moins cher. Et donc, parler de la rubrique pour ou contre que j'ai mis en place pour toi. À chaque podcast, je fais une nouvelle rubrique. Alors, on va parler des nouvelles annonces du gouvernement. Au 1er juin 2024, donc c'est tout récent, là on tourne le 12 juin, le gouvernement a mis en place un renforcement de mon soutien psy. Donc déjà, une démarche pour avoir des soins plus accessibles, notamment pour les jeunes, je crois. Donc, ces annonces vont de pair avec, effectivement, l'annonce du remboursement des séances, passant de 30 à 50 euros. Ce qui est plutôt top, parce que je crois que chez un psychologue, c'est 60 euros.
La moyenne, la moyenne nationale, c'est 63 euros, je crois, précisément.
Ok, donc ce qui est déjà pas mal. Donc de 30, on passe à 50 euros en remboursé. La possibilité de consulter directement un psychologue sans passer par un médecin. Donc là, ce que tu disais, c'est l'accessibilité dans un certain sens. Une extension de nombre de séances annuelles ouvertes. Et oui, effectivement, parce que mon soutien psy ouvrait seulement à des séances remboursées de 8 par an, et là ils ouvrent à un plus grand nombre, c'est-à-dire à 12. Alors t'en penses quoi de ces nouvelles annonces ?
Alors c'est bien dans le sens de l'accessibilité, comme par exemple le fait qu'on passe plus par un médecin, parce que normalement il faut aller voir le médecin qui te fait une ordonnance, donc il faut que tu lui parles déjà de tes problèmes de santé mentale, etc., et que ce soit un médecin qui soit un peu ouvert d'esprit qui va te faire une ordonnance. Parce que je connais des médecins qui veulent pas faire d'ordonnance, même pour des arrêts de travail, parce qu'ils sont un peu de la vieille école, ils sont de... si t'es pas bien, bon, tu
prends sur toi
aller, voilà, et tu prends pas un arrêt de travail, quoi. Donc il faut un médecin qui soit quand même favorable, voilà. Donc si on passe plus par un médecin, déjà c'est plus accessible. À savoir aussi que le dispositif Mon Psy, dans sa version juste avant celle-là, a été très précarisante pour les psychologues. Parce qu'en fait, on rembourse 30 euros ou quoi, mais en fait, le psychologue, lui, il est payé 20-25 euros. Et donc, en fait, il est payé deux fois moins que ce qu'il aurait s'il mettait son prix le plus bas, entre guillemets. Parce que s'il met sa séance à 50 euros, en fait, quand il fait mon soutien psy, il est payé que 25. Donc, en fait, il est payé deux fois moins. Et donc c'est problématique aussi pour la profession.
Oui, alors si je recontextualise, parce qu'effectivement les psychologues aujourd'hui c'est pas des médecins, c'est des personnes qui travaillent en tant que libérales en fait, qui ont des charges, qui ont des assurances liées à leur métier, etc. Et donc effectivement s'ils mettent un prix qui est, t'avais dit la moyenne nationale, pardon, c'est 63 euros, pour eux dans leur poche reviendront seulement moins de la moitié.
25 avant charge. Avant, etc. Donc en fait, c'est pas du tout. En fait, la majorité des psychologues, je crois qu'il y avait une étude qui avait été faite, je crois que c'est 90% des psychologues qui étaient contre ce dispositif-là.
Okay.
Parce qu'ils sont, en fait, ils sont pour le côté social, le côté accessibilité, mais ils sont contre dans le fait où en fait c'était fait contre eux. Parce qu'ils étaient moins payés, mais ils devaient se sacrifier pour le bien social. Donc c'était un dispositif qui n'est pas du tout optimal. Là, si le remboursement est augmenté, j'espère que leur paiement à eux aussi est un peu plus augmenté. mais il sera toujours inférieur au prix moyen par consultation. Donc c'est un peu moins pire, mais c'est pas mieux.
Ok, d'accord.
C'est mieux pour les patients, mais c'est pas mieux pour les psychologues. Sachant que si on n'a pas de psychologue, on ne peut plus soigner les patients.
Donc il y a une dimension économique assez grande dans, ouais, dans cette annonce.
Pas précariser les psychologues non plus, parce qu'il faut quand même au mieux pour aider les gens, quoi.
Ça marche. Et par exemple, alors donc un nouveau pour ou contre, une proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale début mai et portée par une vingtaine de députés Renaissance, donc le parti d'Emmanuel Macron, qui vise à la création d'un ordre national des psychologues. T'en penses quoi?
Alors bah, ça c'était déjà discuté un peu de manière globale par les psychologues, parce que par exemple pour toutes les professions médicales, tu vas avoir un ordre qui va réglementer un peu la profession. Donc les médecins, les kinés, etc., tous ils ont un ordre. Et nous, comme on n'a pas d'ordre qui réglemente, c'est un peu chacun qui fait à sa sauce.
Alors ce qui réglemente, en tout cas, je ne sais pas s'il réglemente concrètement, mais c'est une fédération française de psychologues qui est un peu l'assise des psychologues en France. Mais effectivement, une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui est portée par déjà une vingtaine de députés, c'est énorme, pour la création d'un ordre national.
Alors, à savoir qu'en fait, il n'y a pas la fédération que tu as dit. En fait, il n'y a pas vraiment de réglementation.
D'accord.
C'est juste un peu les psychologues qui peuvent adhérer, ça te donne des infos et tout, ça peut te faire des formations et tout. En fait, il n'y a pas vraiment de réglementation. Il ne va rien faire de spécifique. Donc, si tu restes... Nous, en tant que psychologue, on a un code de déontologie. Donc, tu as tout ce que tu dois respecter théoriquement dans ta pratique, mais en fait c'est pas considéré comme un document légal et réglementé. C'est-à-dire que si tu respectes pas l'un des principes du code de déontologie, t'auras aucune conséquence parce qu'il n'y a pas d'ordre des psychologues. Alors que si t'es médecin, tu respectes pas par exemple le fait de soigner un patient qui vient te demander de l'aide ou je sais pas quoi, selon les principes du serment d'Hippocrate, là tu peux avoir une conséquence de l'ordre des médecins qui peut te convoquer, qui peut te mettre d'avertissement, qui peut te radier de l'ordre et tout. Alors que là, si t'es psychologue, t'as aucune conséquence. Donc le fait de faire un ordre, ça permet de réglementer et de faire en sorte que la majorité des psychologues, quand même, respectent bien les codes de déontologie et qu'il n'y ait pas, par exemple, tu vas voir un psychologue et t'as un psychologue qui est complètement taré et tu vas voir un autre qui va être génial et qui respecte tous les trucs du code de déontologie. Et du coup, ça va venir t'impacter. Parce que imagine, demain t'as un trou anxieux, tu te dis oh, les psychologues ils sont compétents, ils ont fait telle formation et tout, je vais voir un psychologue. Tu vas voir un psychologue, c'est un qui a totalement abandonné le code des ontologies parce qu'il n'y a pas de conséquences. Bah, tu ressors de la séance, c'est pas trop bien quoi. Et puis en plus ça remet en question toute la compétence des psychologues, alors qu'en fait il ne faut pas mettre tous dans le même panier. Donc ça permettrait de réglementer, de faire en sorte que d'homogénéiser un peu la profession, que chacun fasse un peu une pratique qui respecte les mêmes principes et qui est donc meilleure pour le patient.
Ok, d'accord.
Donc plutôt pour, mais attention quand même parce que je trouve que si on réglemente tout, après on est un peu pisté. Je pense que c'est sympa aussi d'avoir un peu sa propre liberté de comment tu pratiques la psychologie, mais tout en respectant le cadre de base.
Ok, ouais.
Par exemple, concrètement, tu peux respecter le code de déontologie, mais en même temps ajouter ta personnalité. Par exemple, tu auras des psychologues qui vont te vouvoyer, qui vont être plus sur la distance, mais ils peuvent être toujours bienveillants, respectant le secret professionnel, etc. Et tu as d'autres qui vont être plus amicaux, sympas, ils vont faire des petites blagues, etc. Mais ils vont respecter quand même le code de déontologie. En gros, on peut mettre un peu sa personnalité aussi dans sa pratique, tout en respectant le... Donc il ne faut pas que ça réglemente aussi tout à l'extrême.
Bien sûr, ok, ça marche. Très clair. Alors tu l'as dit, tu es étudiante entrepreneur chez Pépite en l'occurrence. Quel est ton projet entrepreneurial en deux mots?
C'est une application d'autothérapie pour les personnes... Alors majoritairement, à la base, moi je ciblais des gens qui souffraient de troubles anxieux. Mais j'aimerais cibler la majorité des gens qui souffrent de troubles de santé mentale. Et donc l'idée, c'est de fournir un service en ligne qui serait plus accessible que la thérapie classique et qui permet d'avoir quand même des premiers soins si on souffre d'anxiété, d'un début de dépression, etc. et de commencer à faire quelque chose plutôt que de rester chez soi à souffrir sans avoir aucune ressource parce que c'est pas accessible. Donc voilà, c'est un soin en ligne, numérique et plus accessible.
Ok, ça marche. Donc ça répond à déjà deux besoins qui sont très forts, comme on l'a évoqué en début. Comment t'es venue cette idée de projet?
Alors j'ai regardé en fait ce qui se faisait dans les autres pays, donc notamment au Canada, en Suède, qui sont des pays qui sont évidemment beaucoup plus avancés que nous sur la totalité des sujets liés à la santé.
Oui.
Donc ils font beaucoup de choses liées à la santé mentale. Et notamment, justement, ils incluent donc, ce qu'on appelle donc, des programmes d'autothérapie. Donc, ils incluent ça dans le système de soins, ce qui fait que c'est remboursé. Donc, c'est comme si tu suis un programme en ligne qui t'explique un peu comment tu peux faire pour mieux gérer ton anxiété. Et en fait, c'est gratuit, c'est inclus dans le... Enfin, c'est remboursé par la sécurité sociale et tout. Et donc, eux, ils l'incluent dans le système de santé, alors que nous, c'est pas du tout inclus. Si tu veux faire ça, t'es obligé d'aller chercher soit une application, soit... des professionnels qui font ça ou alors des plateformes où tu dois payer. Donc eux, ils sont beaucoup plus avancés sur ça. Donc ça m'a inspirée de me dire est-ce qu'on pourrait pas mettre ça en France aussi, vu qu'on a besoin. Mais bon, le problème, c'est qu'en France, c'est pas le même système. C'est un système qui est plus fermé, beaucoup plus réglementé et qui est moins facile pour l'innovation, malgré les choses qu'ils mettent en place pour essayer d'encourager l'innovation. Donc c'est plus difficile à faire en France qu'au Canada et en Suède. Mais ça vaut le coup d'essayer au moins.
Oui, totalement d'accord. Et où en es-tu dans le développement de ton projet?
Alors, j'ai fini le premier prototype. Donc, un prototype donc, d'application que j'ai commencé à faire un peu tester. Mais la suite, ce serait de développer vraiment donc, l'application. Donc, trouver un développeur, etc. Et aussi travailler avec d'autres professionnels de santé, des psychologues, des psychiatres, etc. Pour développer un vrai... une vraie solution et la faire tester aux gens pour voir comment on pourrait faire pour rendre ça plus efficace, est-ce que ça conviendrait aux besoins, etc. Donc là, je suis à ce stade-là et au stade où je recherche aussi un peu un ou une associée pour m'aider dans ce projet-là. Et voilà, je suis à ce stade-là. Mon projet, il est un petit peu freiné en ce moment. Mais je garde quand même la même motivation.
Bah, développer une application, effectivement, ça demande beaucoup de ressources, beaucoup de temps et d'argent également. Donc voilà, s'il y a des développeurs, comme tu as dit, des psychiatres, des membres du médical qui pourraient aussi t'aider, qui nous écoutent, bah, ils prennent contact directement avec toi.
Sur LinkedIn, n'hésitez pas.
Voilà. Et est-ce que justement tu as eu des obstacles, des difficultés depuis que tu as cette idée et que tu as essayé de proposer un prototype, etc.
Oui, alors les obstacles que je rencontre même actuellement encore, c'est le problème du réseau. En fait, comme je suis quand même jeune, et ça je pense qu'il y a plein de jeunes qui peuvent avoir la même problématique, c'est on n'a pas forcément assez de réseau. Et en plus, moi dans mon domaine, le réseau il est un peu central. Parce qu'il y a beaucoup de structures où tu peux intégrer que par une personne, quoi. Par exemple, si je veux rentrer dans le, comme j'avais dit, Psychom, c'est une vraie structure qui est vraiment centrée sur la santé mentale. Il faut que je connaisse quelqu'un qui peut me faire entrer dans le truc. Et donc, en fait, il faut un réseau ciblé que j'ai pas encore. Et donc, ça me freine pour développer plus facilement. Et aussi, les difficultés, ça va être évidemment les ressources financières. Quand on est jeune, on n'est pas encore riche, même si j'aimerais bien jouer au loto et être multimillionnaire, mais ce sera pas tout de suite. Et en gros, oui, ça va être le réseau, les finances, et puis le fait de trouver un associé aussi. Et puis voilà, il faut aussi, moi à la base, avant ce projet-là, j'ai fait deux autres projets et j'ai pivoté à chaque fois, donc je changeais du projet à l'autre. Et à chaque fois, il faut faire le deuil de l'ancien projet. Donc ça peut être un peu compliqué la période de deuil entre guillemets de l'ancien projet. Mais sinon, voilà, c'est les difficultés que je rencontre actuellement. Mais après, je trouve ça intéressant, l'entrepreneuriat, que ce soit dans la santé mentale ou pas. Je trouve que ça développe beaucoup des ressources que tu n'aurais pas forcément imaginées. Après, je pense que toi aussi, tu dois le...
C'est vrai. C'est vrai parce que on mène un projet qui est le nôtre et qui demande beaucoup de... Voilà, on doit toucher à tout, beaucoup de... Voilà, d'adaptabilité. Et je trouve qu'on se reconnecte à nous. Enfin, on apprend en tout cas toutes les ressources qu'on peut avoir, etc. Donc c'est hyper intéressant. Et franchement, je conseille à tous, si vous avez une idée d'entrepreneuriat et que vous hésitez, de foncer. Au contraire, vous allez, même si c'est pas quelque chose, un projet qui va tenir dans la longueur ou quoi, ou qui va aboutir finalement, mais c'est toujours quelque chose qui va nous apprendre sur nous-mêmes déjà. Et je trouve que c'est important, même si on finit dans le salariat, que de se connaître davantage, c'est toujours un avantage.
Mini aparté, moi je trouve que tous les entrepreneurs devraient avoir un suivi psychologique entre guillemets, parce que après, je parle plutôt pour par exemple les étudiants entrepreneurs que de chez Pépit. Je trouve qu'on a tous rencontré des difficultés au moment de développer notre entreprise, etc. Et c'est des difficultés qui peuvent avoir un impact sur notre morale, sur notre santé mentale, etc. D'autant plus si, par exemple, on peut avoir une personnalité qui est déjà à la base anxieuse ou angoissée ou un peu facilement déprimée, etc. Et je pense que ce serait une super idée d'avoir... un suivi des fois un peu proposé par les structures d'accompagnement pour les gens qui vont être un peu plus en difficulté, où ça va impacter leur santé mentale aussi.
Ambre, un nouveau projet.
Voilà, mon prochain projet, ça va être du suivi d'étudiants entrepreneurs pour leur santé mentale.
Mais le pire, c'est que c'est vrai. C'est vrai.
Je trouverais ça... parce que même moi, quand on dit... pour moi, c'était un vrai processus de deuil des deux autres projets. Et ça, dans la vraie vie, on peut avoir des processus de deuil, même si c'est pas vraiment la même chose. Ça peut être pour une personne ou quoi qui est morte, mais bon, c'est pas la même chose. Mais je suis sûre que le processus de deuil dans l'entrepreneuriat, ou même toutes les difficultés, les blocages que tu rencontres, peuvent être aussi des croyances limitantes qui vont te bloquer dans ton projet, t'empêcher d'avancer. Ça vaut le coup de se faire aider par quelqu'un qui va t'aider à débloquer ça. Et donc ensuite, tu t'avances mieux sur ton projet.
C'est vrai, c'est vrai. Et je vais revenir sur le réseau. Effectivement, en fait, on est jeunes, donc les personnes qu'on côtoie, nos alentours, finalement, qui ont une portée, ça serait nos profs, nos parents, dans le cercle proche familial, quoi. Mais comme tu l'as dit, certains d'entre nous ont des projets très spécifiques comme le tien, qui ont besoin de contacts assez spécifiques, en fonction du secteur, en fonction de développer une application. On ne connaît pas tous un développeur dans notre entourage. Et moi, je voudrais donner comme anecdote, j'ai eu une conversation avec Clarisse Lecourt, qui est la fondatrice de Clarifarm, je ne sais pas si tu connais, la création de tout ce qui est protection féminine, intime, etc., depuis 2010. Et en fait, elle développe des choses dans le biomédical, et maintenant, elle fonce dans l'innovation spatiale, etc., pour tout plein de choses, et pour permettre aux femmes d'aller aussi dans l'espace, etc. Voilà. Et j'ai trouvé ça, c'est un phénomène, quoi. Et je lui ai demandé, mais comment on peut en arriver là, comment on peut dégoter ce genre de contact, etc. Et tout ce qu'elle m'a dit simplement, c'était je me suis mise à l'entrepreneuriat, j'avais je crois, si je dis pas de bêtises, 45 ans, et en fait elle a baigné dans le biomédical depuis qu'elle a 25 ans, enfin depuis la fin de ses études, et que les contacts c'était déjà ses proches, c'est-à-dire des anciens collègues, des personnes avec qui elle a dû côtoyer pour travailler sur tel dossier, etc. Donc en fait elle les appelait au téléphone et hop, Clarifarm.
Alors ça paraît plutôt simple comme ça, du coup.
Donc on n'imagine pas le poids du réseau, mais ça peut vraiment avantager sur certains projets, effectivement.
Dans le domaine, on se fait le réseau naturellement, et ensuite si on veut lancer un projet, c'est beaucoup plus facile. Alors que là, comme j'ai pas encore 30 ans d'expérience, tu vois, dans le domaine, j'ai pas assez le réseau dont j'ai besoin là tout de suite.
C'est vrai. Et à contrario, as-tu des facilités ou des aides de quelconque personne ou structure ?
Alors, des aides d'abord de personnes, ça va être ma famille, qui pour le coup soutiennent beaucoup dans ce projet-là et aussi sont sensibilisées à la santé mentale. Parce que moi, j'ai une famille qui est beaucoup dans le médical et dans la psychologie et tout. Donc, c'est que une famille de soignants. Mon frère, elle est psychiatre et tout, ma mère, elle a fait psychosociologie et tout, bref. Tout le monde est à moitié dans le médical. Et donc, c'est déjà c'est aidant d'avoir du soutien familial dans ce projet-là. Donc, j'ai jamais eu, par exemple, des parents qui sont contre ton projet, qui vont te dire non, mais il faut pas faire ça, tu devrais avoir un truc standard, un job et tout, un CDI, bref. Non, ils disaient bah, si tu as envie de faire ce projet-là, tu le fais, si tu as envie de faire autre chose, tu fais. Nous, ça nous parle aussi, donc si tu as besoin d'aide, on t'aide. Donc, ça, déjà, c'est quelque chose qui est aidant. Après, bah, déjà, ma propre formation, je trouve que c'est aidant. Parce que par exemple, si je venais pas du tout du milieu là, que j'étais, je sais pas, j'avais fait une formation en plomberie, bon, m'intéresser à la santé mentale, bon, ça peut être un peu.
T'intéresser, moins, oui, mais développer toute une application.
C'est plus compliqué.
Moins évident, comme tu disais. Ouais. Ok. Et quelle est la suite pour toi concernant bah, ton projet? Enfin, quelle est la suite?
Alors, la suite. Alors, il faut savoir que comme je suis bloquée sur le réseau et, et les ressources financières, je réfléchis à adopter une autre stratégie. Donc, comme tu as pu dire, d'ailleurs, très bien la transition, tu as parlé beaucoup de la dame de Clarifa, qui, elle, du coup, comme elle avait déjà son réseau lié à son environnement professionnel, ça a été plus facile de se lancer. Je me dis que peut-être il faudrait que je, quelques mois, que je travaille, par exemple, dans le milieu précisément. Donc, par exemple, je ne sais pas, travailler dans une entreprise qui fait une application de santé mentale, etc. Pour être dans le milieu, développer du réseau de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Et développer plus de ressources, quoi. Donc, c'est quelque chose pour lequel je réfléchis. Et pour ensuite bah, revenir à mon projet dans quelques mois et avoir plus de ressources. Et donc, avancer et dépasser ce blocage-là plutôt que de rester dans ma stratégie actuelle qui ne fonctionne pas. Donc ouais, il faut faire des choix quand on est entrepreneur.
Oui.
Et c'est pas forcément facile. D'où l'intérêt d'avoir un suivi psychologique.
Merci. Bah, merci beaucoup, c'était super sympa ce podcast. En tout cas, on te souhaite beaucoup de courage pour la suite de ton projet. J'ai trouvé super intéressant d'aborder bah, le sujet de la santé mentale. Hein. C'est vraiment quelque chose d'inhérent maintenant dans notre société. Mmh. Et toujours un plaisir de sensibiliser autour de nous. Je trouve que ça, c'est pertinent. Bah, je suis ravie d'avoir pu échanger avec toi. J'espère que ça t'a plu aussi.
Oui, bah, c'était très bien. Alors, un dernier mot de la fin. Il faut, souvent, on pense que la santé mentale, c'est juste... ça porte juste sur les personnes qui sont fragiles. Alors, par exemple, on a l'impression qu'on parle de santé mentale que si quelqu'un qui va être anxieux, pas bien, etc. Mais en fait, on a tous une santé mentale. Mais c'est juste qu'il y a une santé mentale qui va être plutôt bonne, plutôt, et une qui va être plutôt mauvaise, entre guillemets. Genre par exemple, même toi, tu as une santé mentale, mais peut-être que c'est une bonne santé mentale. Et donc, il faudrait tous qu'on se rende compte qu'on a tous une santé mentale et qu'on doit en prendre soin, même si on n'est pas encore fragilisé, quoi.
C'est vrai.
Voilà. Bah, en tout cas, c'était génial ce petit podcast.
Bah ouais.
C'est sympa. Et puis, je t'encourage à continuer, évidemment.
Et bah, j'espère que ça a aussi plu à nos auditeurs qui nous écoutent. Et d'ailleurs, merci de nous écouter. Si vous voulez bien prendre 2 minutes pour nous dire ce que vous en avez pensé, si vous étiez d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez d'autres choses à rajouter pour donner encore plus de perspective à nos propos. En tout cas, nous, avec Ambre, on adorerait connaître vos avis. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi à l'émission. Donc, les jeunes prennent le micro, car plein d'interviews de nos jeunes arrivent très vite. À plus !